Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
J'étais capable de cantonner vachement le doute. Je savais qu'il y avait des choses à puiser quoi, dans le doute, bien sûr, dans le fait de se remettre en question, de ne pas s'asseoir sur ses certitudes. Il y a forcément quelque chose qui rend meilleur. Quoi. Mais d'un autre côté, je savais aussi que pour agir, parfois, j'avais besoin de mettre un couvercle quoi, sur le doute et de juste avancer un peu en tant que force brute. Là, j'arrête de douter, même si je sais que j'ai de bonnes raisons de douter. Pour pouvoir faire ce prochain pas, il faut que je me concentre en fait, sur une absence de pensée, sur une absence de question.
Début avril, j'ai tweeté la phrase « Ce qui manque à ma vie, c'est Alice Zanitaire dans Les gens qui doutent ». Et puis, Twitter a fait sa magie, et donc la voici dans ce podcast, j'en suis très très fière. Alice Zanitaire, elle est romancière, traductrice, scénariste, dramaturge et metteuse en scène. Elle a notamment reçu le prix Goncourt des lycéens en 2017 pour son roman « L'art de perdre ». Plus récemment, elle a publié un très chouette essai qui s'appelle « Je suis une fille sans histoire » qui aborde le pouvoir du récit et ses constructions habituelles. Et non seulement c'est un texte qui est extrêmement intéressant, mais en plus il est très comique. Et c'est comme elle, en fait, puisque dans une même conversation, elle peut à la fois donner l'impression d'avoir créé le concept même de pertinence et à la fois parler de Shakira et utiliser l'expression « tranquillou bilou ». Donc je l'aime beaucoup, je l'admire beaucoup et je suis très heureuse qu'on ait pu parler ensemble une tonne de choses, de ce qu'elle aime dans la fiction, de sa peur d'être une fraude, toujours aujourd'hui, de comment elle travaille, de ce contre quoi elle lutte dans son écriture et ce qu'au contraire elle s'acharne à faire, de l'importance du plaisir dans son métier. Elle m'explique aussi un jeu que je trouve horrible auquel elle jouait à Budapest avec un ami et elle me raconte la fois où elle s'est retrouvée dans une chambre d'hôtel glacial à Gap à manger de la pizza froide en regardant American Pie 4 en français. Tous ces sujets abordés en faisant beaucoup de métaphores d'animaux et en prévoyant de construire une cathédrale. C'est un épisode que j'adore. On y rigole vachement, mais il y a aussi beaucoup de moments de silence assez long que j'aurais pu enlever, mais que je trouvais très très beau, donc que j'ai laissé. J'espère que ça vous plaira.
En fait, moi, je suis partagée, et c'est ça, je pense que c'est ça qui me fascine aussi dans mon rapport à la fiction et dans le rapport à la fiction en général, c'est que il y a un côté... j'ai envie, en fait, à la fois que la fiction, elle me renseigne sur le monde. J'ai envie de pouvoir trouver des choses qui me ressemblent et des cachettes faites à ma taille. Et d'un autre côté, j'ai envie que ça m'arrache à moi. J'ai envie que ça me montre du plus grand, du plus fou, du plus beau, du plus laid, mais du plus que ce qui m'entoure. Donc je demande à la fois à la fiction d'être toute petite et délicate et de savoir accompagner le quotidien, de savoir accompagner le délitement des pensées, le délitement du sujet, qui fait que quand je dis moi, ça recouvre 50 choses différentes. En fait, il y a plus quoi cette illusion d'une sorte de personnage qui se tiendrait debout avec une seule parole, une seule ligne de conduite. On est un peu tout fragmenté. Et je demande à la fiction de faire ça et en même temps je demande à la fiction d'être pleine de personnages de Shakespeare, quoi, les méchants de Shakespeare qui meurent en disant je ne regrette rien et si j'avais pu tuer 1000 personnes de plus je l'aurais fait. Tu sais, ça c'est génial, c'est génial cette grandiloquence, c'est génial cette démesure, et du coup je suis tout le temps entre les deux. Je suis tout le temps en train de me dire tiens, comment comment faire ça ou ça et où trouver ça ou ça. Et c'est aussi pour ça que, enfin, tu vois, que c'est, je trouve ça merveilleux, en fait, qu'on ait des grandes bibliothèques. Je peux pas, en fait, moi, préconiser un truc. Je peux pas dire le roman devrait être comme ceci ou les séries devraient être comme cela, parce qu'en fait, moi, j'ai besoin que la fiction, elle m'apporte des trucs tellement différents que ça veut dire coexistence d'espèces qui se ressemblent aussi peu qu'un zèbre ressemble à un lémurien. La fiction doit être très diverse.
On est déjà sur les métaphores d'animaux.
J'arrive pas à vivre sans. C'est ma boussole, quoi.
J'ai cru comprendre.
Je trouve que c'est la chose la plus parlante du monde. Tu vois, l'histoire avec des animaux dedans.
Ouais. Ouais. Est-ce que toi, dans ton écriture, des fois, t'écris quelque chose de très rationnel, de très proche du quotidien, et puis des fois, tu dis, tu sais quoi, fuck it, il va partir en mode drama le plus total. Genre en mode gros coup de théâtre.
Est-ce que je fais ça? Écoute, j'aime bien. Je crois que j'aime bien ce truc. Alors, qui est quelque chose que je rattache pour le coup vraiment au roman de Dostoïevski, mais un truc où tu sais tout à coup les personnages se lancent dans des tirades d'une intensité de dingue. T'as l'impression qu'ils mettent toute leur vie sur la table sur des questions qui n'ont pas grand chose à voir avec le fil narratif. Et je trouve ça fou quoi ce truc où, ouais. Les gars, tout à coup, s'arrêtent, se mettent à se bourrer la gueule au cognac et à parler de l'existence de Dieu avec une fièvre complètement folle. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, de me dire oui, en effet. Enfin, tu finalement, c'est j'ai ce pouvoir quand je construis des scènes, de me dire eh ben, au lieu de continuer à faire du thé, maintenant ce personnage va se lancer dans une diatribe complètement enfiévrée. Après, mais je l'enlève, mais bien sûr, ça m'arrive assez souvent de tuer tous mes personnages en deux phrases. Quand je me retrouve engluée dans quelque chose, bah, bien sûr, tu peux le faire, tu sais, ça me rappelle ce pouvoir. Et tout à coup, tu sais, un immeuble leur tombe dessus et ils sont tous écrasés et ils meurent. Et
c'est horrible, j'ai l'impression que tu les tues pour de vrai.
Et ça me rappelle que, en fait, j'ai envie de pas les tuer. Ouais. Le fait de faire ça, de me dire non, je suis pas coincée avec mes personnages en fait. Si je me suis engagée là-dedans, c'est parce que j'ai envie de le faire. Mmh. C'est parce que notre existence commune, elle m'intéresse encore. Et le fait de les tuer me rappelle cette liberté et m'aide à continuer à les faire vivre. Mais j'ai un peu honte tout le temps quand je fais ça. C'est un peu j'ai un peu l'impression, tu sais, d'être une sorte de psychopathe qui met le feu à une fourmilière ou genre les personnages de John Fante qui tuent des crabes sur les plages de Californie avec des bâtons. Ouais. Comme des fous furieux.
C'était Bandini. Non, c'est pas Bandini. C'est lequel qui fait ça?
Bah, je crois que c'est Bandini. C'est Bandini. Ouais.
Quel petit zinzin. Mais tu sais que j'écoutais les épisodes de Bookmakers que t'as fait. Mm. Et à un moment, tu parles du fait qu'il y a des personnages que tu construis dans un but purement utilitaire. Et j'étais comme, ah, mais elle est pas sympa de dire ça d'eux. Mais parce que j'avais où? Enfin, il y a un truc de. Comme s'ils existaient avant que tu les aies créés. Donc, le fait que tu dises ça, c'est pas sympa. Mais alors qu'en vrai, ben, ils auraient pas existé si t'avais. Et donc, ça m'a. Je ressentais des choses vraiment très contradictoires. Et donc, voilà.
Bah après, j'en parlais parce que je parlais du fait que certains qui arrivent pour des raisons utilitaires, prennent une place qu'ils devraient pas avoir. Et notamment, donc, dans L'Art de perdre, le personnage de Youssef Tadjer, qui était vraiment là parce que. Parce que j'avais besoin d'un gamin plus vieux que mon protagoniste Hamid. Et en fait, j'aime bien ce truc, quoi. Je le trouve tellement charmant que j'ai pas envie qu'il s'en aille. Et donc, je lui donne une scène en plus, et puis deux scènes en plus, et puis une grande tirade, et puis ça devient le passage que j'aime le plus lire à voix haute quand on fait des rencontres. Et je pense que sur les premières conversations publiques que j'ai eues autour de L'Art de perdre, on pouvait limite se dire que c'était un livre sur Youssef Tadjer, alors que le type était arrivé pour apporter une photo, quoi, dans un premier temps.
Qu'est-ce que ça va être vraiment teubé comme question, mais ça t'apporte quoi l'écriture? Qu'est-ce que ça te permet de décharger ou pas? Qu'est-ce que ça te procure vraiment?
Déjà, ça m'apporte du temps. Ça m'apporte du temps pour réfléchir aux choses. J'ai un gros besoin de vraiment de formulation, quoi, pour comprendre les choses, pour comprendre ce que je pense des choses. Et je sais pas, j'arrive pas à faire cet effort-là seul et à l'intérieur de ma tête. Je peux pas non plus utiliser tout le temps les autres comme cobayes pour établir au fur et à mesure d'une conversation ce que je pense sur tel et tel sujet. Donc ce temps-là que me donne l'écriture, il est très très précieux, quoi. Après, ça dépend vraiment. C'est pas du tout, ça m'apporte pas du tout la même chose. Il y a vraiment des moments où quelque chose se passe qui est de l'ordre d'un décollement, quoi, d'un décollement de la réalité. J'ai l'impression que j'habite juste sur une couche qui est située 5 cm au-dessus. C'est pas une autre planète, c'est pas très très loin, mais je suis 5 cm au-dessus ou en dessous de la couche normale, quoi. Je me suis légèrement arrachée à ça et c'est un peu grisant. Par moments, c'est purement et simplement genre un gros plaisir d'artisanat, ce truc de se dire que je vais travailler la phrase comme on pourrait travailler du bois, et j'ai l'impression que voilà, que j'ai un peu toute ma panoplie d'outils, mon coin, mon rabot, mon truc. Je suis là, ok, mais allitération, rythme ternaire, et je vais essayer de modeler la langue comme ça. Et puis quand ça marche, quand le résultat me plaît, c'est grisant. Quand ça me plaît pas, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Je m'insulte, je me maudis, tout ça.
Un jeudi.
Voilà.
Et comment se créent les idées dans ta tête? Parce que moi, j'ai jamais écrit d'autres choses que genre des chroniques, des trucs où je parle de moi d'une façon ou d'une autre. Et donc, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment les gens créent des histoires, des personnages. Bon, c'est un truc vraiment que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est parce que j'ai pas beaucoup d'empathie. Mais comment... Quid?
J'ai pas un truc très... Comment tu dirais ça? J'ai pas un truc très proactif. Je crée mes histoires un peu au fil du temps, presque à la passivité et à l'agglomération de trucs qui se fait un peu sans moi. C'est-à-dire que j'accumule des choses qui parfois sont très petites, parfois qui sont plus grandes, mais des envies de bosser autour de thèmes ou de trucs. Et dans ces thèmes-là, oui, je vois bien quelques trucs qui font des scènes, qui feraient des scènes que j'ai envie d'écrire. Et puis il y a des trucs mini, quoi, des phrases que je glane au fur et à mesure, des machins. Et puis en fait, tout ça, ça forme une bouloche, quoi, dans mes pensées. Et puis à un moment donné, je me retourne et la bouloche, elle est assez grosse, quoi. Parce que ça s'est collé à ça, ça s'est collé à ça, ça s'est collé à ça. Et puis après, je travaille dedans, mais ouais, il y a toujours quelque chose qui est presque de l'ordre de l'aléatoire, quoi, dans un premier temps, où ça fait une sorte de succession de, enfin, ou un ensemble dont on voit pas trop la cohérence, quoi. Est-ce que c'est possible d'écrire l'histoire de d'un hacker et une scène sur le je sais pas, la vase à la plage et les huîtres sauvages sur les rochers et une scène sur ceci? Enfin, il y a toujours des éléments qui n'ont pas l'air d'avoir grand chose en commun et que j'accumule, et c'est ça qui me donne le truc. Mais j'ai jamais construit une histoire un peu comme on construit une cathédrale. J'ai jamais fait des plans. Putain, mais oui, ouais, mais après si les gens font pas d'efforts pour construire des trucs qui vont durer 1000 ans, la civilisation s'écroule. et du coup, on a des livres de Michel Houellebecq pour nous raconter comment tout se casse la gueule. Donc, est-ce que tu veux bien construire une cathédrale, s'il te plaît?
Et je suis désolée. Reportons l'interview à la semaine prochaine. D'ici là, je bosse.
Non, mais tu vois ces trucs avec, je sais pas, où tu dessines des arcs, ça se rejoint en un point, toute la pression du toit,
toi,
machin,
tout ça.
Non, je fais pas de plan. Je fais pas de. Je me lance un petit peu à la barbare, quoi. Genre, j'ai pris un sac plastique pour faire une luge et on va voir jusqu'où va la pente. Et ça rend le truc très casse-gueule, parce que il y a des moments où je me casse le nez contre des trucs et je sais pas si je vais pouvoir contourner cet obstacle ou escalader cet obstacle ou si c'est vraiment que je me suis lancée un peu trop tôt et que il y avait une faille fondamentale à ce que j'avais envie d'écrire et que du coup il faut que j'abandonne et que je remonte le truc à l'envers.
Cette métaphore t'as fait tout le circuit là.
Attends, donc, on avait commencé par les animaux, après on a la cathédrale, la luge, la mécanique, le travail sur le bois, je sais pas si j'éclaircis quoi que ce soit de
non,
mon
mais
rapport
si,
à mon boulot.
Non, mais c'est juste que je vais apprendre plein de métiers dans cette interview et sûrement découvrir plein d'animaux. mais Du coup, t'as aucune construction, t'as juste genre des, genre par exemple pour l'art de perdre, t'avais cette idée de trois récits, mais tu savais pas plus.
Non.
Et ça t'angoisse pas d'avancer genre avec juste une petite lampe torche dans une énorme. Là, c'est moi qui pars en métaphore.
Et donc maintenant la spéléologie.
Allez, allons-y. Donc ça t'angoisse, mais tu le fais quand même.
Ouais. Parce que je crois aussi très très fort à la question du désir plaisir, c'est-à-dire au fait que je trouve un plaisir à écrire parce que j'ai le désir d'écrire quelque chose, et le désir d'écrire quelque chose, il est aussi un peu situé dans le temps, quoi. J'ai envie d'écrire quelque chose maintenant. Si je continue à voir comment ça peut s'agencer au milieu d'autres scènes et d'un autre déroulé, etc., je prends le risque que le désir d'écrire cette scène, le désir d'écrire ce passage, même ce paragraphe, il s'éteigne, et que en fait finalement je sais pas, 3 mois, 6 mois plus tard, j'écrive le truc un peu contrainte et forcée parce que je sais que ça se loge ici et pas ailleurs, et que j'y perde un plaisir fou, et moi je saurais pas, enfin je pourrais pas continuer à écrire si c'était pas quelque chose qui m'apportait du plaisir. Je vois, tu sais, le sérieux qu'acquiert et la reconnaissance, quoi, qu'acquiert tous ceux qui disent qu'ils écrivent dans la souffrance. Et du coup, ça va avec toute cette rhétorique, tu sais, presque d'être traversé par un talent divin, mais qui te brûle au moment où il te traverse, mais tu dois le faire, parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'élection, de l'exceptionnalité, de ta plume, de machin, tout ça. Et moi, il y a vraiment un truc, enfin, si je kiffais pas ce que je faisais, je le ferais pas. Enfin, écrire dans la douleur, ça me paraît complètement con, quoi. C'est comme si je disais tous les matins, je vais me taper un marteau sur le pouce et c'est comme ça que j'occupe mes journées. Mais si c'était ma seule manière de gagner ma vie et de faire bouillir la marmite, d'accord. Mais je vois pas l'intérêt, quoi. Sinon, à passer une vie de souffrance. Donc. Ce truc du désir-plaisir. Donc, oui, il y a des scènes que je commence à écrire, en fait, dès que j'ai envie de les écrire. Et tant pis si elles sont rattachées à rien. Parfois, il faut que je les coupe. En fait, c'est ça le truc qui me pend au nez, quoi. C'est que des choses dont j'étais très contente au moment de la fabrication, dans l'économie globale du truc, ça rentre pas. Et ça veut dire il faut faire son deuil de ces passages-là. Et tant pis si t'as passé 16 heures à bouger une virgule dans la phrase de fin... avec le sentiment que ça y est, c'était ton chef-d'œuvre de paragraphe.
et t'arrives à faire ce petit deuil de certains passages que t'aimais bien?
En vrai, je triche, je les remets dans le livre d'après.
Ah ouais?
Ouais.
Bravo. Parce que franchement, c'est solide.
Je garde un truc, tu sais, j'ai un fichier cimetière de paragraphes, et dedans il y a les bouts coupés comme ça.
Mais c'est sûr qu'il doit faire 400 pages.
Non, pas tant, parce que vraiment, en fait, je les réutilise assez souvent. Okay. Donc, en fait, ils disparaissent. Tu vois, une fois que je les ai réutilisés dans un livre, je les coupe du fichier cimetière. Mais ça marche. Enfin, tu vois, j'en ai décalé plus d'un, quoi. Genre le premier livre de ma vie d'adulte, pour le coup, donc, qui était Jusque dans nos bras. Il y avait un moment où, donc Jusque dans nos bras, qui se passe entièrement entre Paris et la Normandie à l'heure actuelle, il y avait un moment où mes deux personnages partaient vivre à Budapest, puisque je l'ai écrit quand je vivais moi-même à Budapest. Et mon éditrice de l'époque, Véronique Ovaldé, m'a dit « Non mais c'est pas... Enfin pardon, mais tu sais, on ne comprend pas, ils sont là, ils sont en train de se débattre avec des histoires de mariage blanc, de racisme en France, etc. Puis tout à coup, il y a une description des tramways et des ponts de Budapest. Je crois que c'est pas à la bonne place. » Et c'est elle qui m'a d'ailleurs conseillé de le garder, enfin, c'est qui m'a appris ce travail.
Elle qui a construit le cimetière.
Exactement, elle me dit, mais je te dis pas de les jeter, tu les mets dans un fichier, tu verras plus tard. Et ben résultat, 3 ans plus tard, je publiais un livre qui se passait entièrement à Budapest, et du coup j'avais réutilisé toutes mes descriptions de tramway, tu vois, et de pont. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui se suivent et qui se décalent, quoi, jusque dans le livre suivant.
Comment tu... Est-ce que tu bosses dès le départ avec un éditeur, une éditrice qui t'aiguille, ou est-ce que tu fais tout un peu dans ta tête et puis après tu fais relire pour genre peaufiner, avoir des indications et tout, ou est-ce que ça se fait vraiment en symbiose comme ça?
Un peu les deux. C'est-à-dire que Bah depuis en fait depuis que j'ai commencé à travailler avec Alix Penant à Flammarion et que ça marche entre nous et que je sais à quel point ces retours m'aident, j'ai tendance à demander ces retours le plus tôt possible. D'abord il y a un temps de simple conversation où je lui dis par exemple voilà je, tiens j'ai envie de faire ça, je suis en train de penser à faire ça et où elle peut me dire ah tiens genre c'est intéressant, est-ce que t'as lu ça, est-ce que voilà mais c'est, ça reste très flou quoi. C'est pas j'ai jamais fait de travaux de commande purement et simplement par exemple et j'ai pas envie du coup comme je te disais que je construis pas aussi beaucoup mes livres avant de commencer à les écrire, je peux pas non plus en fait présenter quelque chose, demander aux gens de me préacheter un livre sur la présentation.
Peut-être.
Voilà. Si j'essaye de faire ça, voilà, je suis la meuf qui dans un pitch dit donc ça se passe sur une île, ce sera à propos d'un auteur mort et j'ai une grande scène avec une boule à facettes. Et les gens disent mais enfin c'est pourquoi la boule à facettes? Et je, mais parce que c'est vraiment la scène que j'ai envie d'écrire. Il y a quelque chose de très, très beau dans la manière dont les lumières de boule à facettes passent sur les visages des gens complètement déterrés, qui ont plus du tout envie d'être là à la soirée. Et je trouve qu'on devrait pas laisser ça au cinéma. Je veux que la littérature le reprenne aussi, quoi. Et les gens disent, c'est très bien, mais ça fait pas un livre, en fait. Ce n'est pas du tout un livre. Et je comprends. Ils ont raison. Ils ont raison. Au stade où c'est, je peux pas demander aux gens de dire « faites-moi un contrat pour cette grande idée de reprendre les scènes des boules à facettes au cinéma ». Donc voilà, c'est une conversation qui est plutôt floue que j'ai avec Alix. C'est jamais un engagement. Je suis même tout le temps en train de repréciser. Genre, tu sais, si ça marche pas, je ferai pas. Enfin, j'abandonnerai le truc. Je ferai un autre livre. Et puis j'écris une V1 qui pour le coup est complètement dans mon coin. Là, je j'échange plus avec elle pendant que je suis en train de construire ça, ou très peu.
Donc pendant plusieurs mois,
pendant plusieurs mois, ouais.
Tu t'enterres en Normandie, t'écris.
En Bretagne,
ouais. Pour moi, c'est le côté de la France. Je sais pas où sont les départements.
Dans le Grand Ouest. Disons que je vais dans le Grand Ouest et j'écris.
et t'écris. Et comment tu sais qu'une idée est bonne ou qu'elle va t'amuser assez longtemps pour en faire un roman?
Ben c'est un peu ça. En fait, la deuxième question est la réponse à la première.
Mais comment tu peux le savoir ça?
En fait, moi, je suis obligée d'abord de laisser passer un peu de temps. C'est-à-dire que une idée, je vais la laisser décanter pour voir si elle tient.
Une fois que l'euphorie est partie, qu'est-ce qui reste?
C'est ça, c'est que tu peux pas. C'est un peu comme les discussions bourrées. Quand tu dis avec des potes, genre bien sûr qu'on va aller escalader à Fontainebleau demain à 10h et qu'on y passera la journée, et ce sera merveilleux de faire du bloc. Et puis le lendemain, en fait, tu te réveilles avec une gueule de bois et tu dis mais c'était complètement con. Sur le moment, bien sûr, c'était l'idée la plus joyeuse qu'on ait eue, etc. Mais comment on a pu penser que par moment, voilà, j'ai des idées dont je me dis c'est absolument merveilleux, j'ai envie de parler de ça. Enfin, souvent ça m'arrive lorsque je suis plongée dans un champ qui est pas le mien, tu vois, que je découvre un nouveau domaine, un nouveau métier avec le vocabulaire qui va avec, des gestes qui sont pas du tout ceux que j'ai pu observer dans ma vie quotidienne, et je me dis waouh, c'est fou, il faudrait décrire ça, etc. Et une fois que la nouveauté en fait disparaît, je dis non, en soi c'est pas, enfin, en fait c'était juste nouveau, mais c'est pas du tout quelque chose qui me donne envie d'écrire. Donc, je laisse du temps. Et si l'idée est bonne, justement, les envies de scènes, les envies d'écrire des scènes, elles commencent à se faire plus nombreuses et plus précises. Des mois après la première idée, je me dis, ok, ouais, cette idée, elle est bonne parce qu'elle se ramifie en plein de trucs qui deviennent de l'écriture. Et là, je peux me dire que ça va durer un peu longtemps, quoi. Que mon désir d'écrire, il va durer un peu longtemps, parce qu'il y a plein de pistes différentes et plein de désirs différents d'écriture qui apparaissent autour de ces premières idées.
T'as souvent besoin comme ça de te plonger dans des domaines que tu connais pas?
Ouais. Enfin, c'est pas un besoin. C'est comme la rhétorique de la souffrance en écriture, la rhétorique du besoin. J'ai du mal avec ça, quoi. Je sais pas ce qu'il y a de l'ordre de la nécessité chez moi.
Que t'aimes, qui te stimule en tout cas.
Ouais, pour le coup, ça, je trouve que c'est une grande chance. C'est une chance immense du boulot que je fais, qui est la même chose. Pour le coup, des créateurs de fiction et puis aussi des interprètes, quoi. Le le fait de pouvoir bosser sur d'autres vies que la nôtre, d'autres champs que la nôtre, et traverser ces trucs avec le plus grand sérieux. C'est une sorte d'exploration. Et ça, c'est fascinant parce qu'en réalité, il y a plein de groupes sociaux, tu vois, qui vivent pas du tout comme je vis, sur lesquels je pourrais avoir des a priori. Et surtout, il y a une sorte de spécialisation, quoi, un peu des différents domaines dans la société. Et entre ces mondes, il y a pas forcément de pont. Il y a pas forcément de vocabulaire commun. Peut-être même que il y a pas de perspective sur le monde qui soit commune. Peut-être que les manières de voir le monde sont tout à fait différentes d'un groupe à un autre. Et du coup, c'est assez fou, quoi, de pouvoir passer entre tous et se dire ah oui, d'accord. Dans ce groupe, il y a ceci, cela. Et accumuler, quoi. Les a priori philosophiques qui fondent ce groupe, le vocabulaire, les gestes, toutes les données sensorielles. Ça, c'est un truc que je remarque pas mal depuis que j'écris. J'ai un très mauvais odorat. Et donc, en fait, je suis obligée de rajouter les données odorifères, si ça existe, ensuite.
Ah oui?
Parce qu'après, c'est pas du tout ma manière d'aborder le monde passe très peu par mon nez. Et du coup, c'est toujours une couche qui vient après. C'est un peu de la tricherie aussi. Parce qu'en fait, je sais jamais comment sentent les trucs. Mais je me dis, ah, ça manque. Donc, je repasse et je dis, non, ça sentait, nanana.
Mais genre, t'inventes à moitié ou tu demandes?
Ouais, un peu. Un peu avec cette peur, tu sais, je vois ton tatouage depuis tout à l'heure, mais avec cette peur qu'un jour quelqu'un me dise, je sais que tu mens, je sais que t'es une vieille fraude, tu vois, genre, ça n'existe pas, cette odeur. Ça se passe pas du tout comme ça.
Oui.
Est-ce que c'est ta plus grande peur?
Oui.
Ouais.
Oui, alors pour l'audiobook, comme on dit chez Sophie-Marie Laroui,
ouais.
J'ai un tatouage Fauny. Donc, il vient de la trappe-cœur de Salinger, qui veut dire Fauny, donc ouais, une fraude,
un imposteur,
quelqu'un qui fait semblant et tout. Et oui, en fait, je l'ai mis ça comme un reminder de « sois pas ça, jamais ». Enfin, essaye, parce que souvent, si, quand même. Mais et oui, donc c'est un petit rappel.
On avait un jeu avec un de mes copains à Budapest quand je vivais là-bas, de se dire quelle est la pire phrase en fait qu'on pourrait te glisser à l'oreille en soirée.
Soirée, ça veut dire là maintenant ou de manière générale?
Souvent on jouait à ça quand on était dans des bars et que l'ambiance était joyeuse et on se disait par exemple regarde tu vois la table au fond là-bas près de la porte tu vois ce type brun comme ça avec le t-shirt vert, imagine il se lève, il s'approche, il te glisse quelque chose à l'oreille en passant en allant au bar commander sa bière brune Choproni Démon, tu vois, quelle est cette phrase qui te glace? Et moi, quasiment tout le temps, c'était I know that you're funny. Je me disais, c'est le truc qui me paralyserait en permanence, quoi. Je connais pas de moment où j'aille assez bien pour que cette phrase ne m'émiette pas à la gueule directement.
Mais c'est horrible comme jeu. Ça, genre, il y a une bonne ambiance, tu sais ce qu'on va faire? On va réaliser nos peurs. On va les pointer du doigt. Triturer. Ah, mais quoi? Mais qui?
Je pense qu'il y avait un côté, tu sais, il y avait un côté un peu, fan de David Lynch aussi, genre on a trop vu Lost Highway avec le type qui appelle en disant, je suis à votre, enfin non, il appelle pas, il dit, je suis chez vous maintenant,
ouais.
et quand l'autre appelle chez lui, en effet, il est là-bas, mais ce truc de travailler sur cette espèce de peur, qui se situe entre le réel et une distorsion cauchemardesque du réel, ce truc de se dire, ok, ça fonde des amitiés, tu sais, du coup, on partage les angoisses les plus profondes, et puis, ouais.
Mais ça, c'était il y a quelques années, et là, t'as toujours peur qu'un inconnu de la table du fond vienne te dire ça, ou que n'importe qui trouve que t'es une fraude.
Ouais. Ouais, ouais. Et, que je bosse pas assez. Ça va ensemble, quoi. Ça va ensemble. Parce que je pense que j'ai intégré quelque chose qui est, ça va, je suis pas débile, quoi. J'ai quelques trucs que j'ai réussi à peu près apprendre, enfin, sur lesquels je peux bosser, que je peux essayer de passer, de transmettre, ouais, je peux faire des, des variations sur sur les quelques sujets que je maîtrise. Je me dis pas, tu vois, genre tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu sais rien, juste ferme ta gueule. Non, je me dis ok, ça va, ça c'est un peu mon terrain, ça je peux faire les choses. Mais du coup, la peur, elle se déplace à quel moment t'as assez bossé pour que ça devienne vraiment intéressant. Et la peur, c'est devenir, est-ce que t'es pas en train de te vautrer dans ta facilité. Et en fait, plus ça arrive, j'ai l'impression que plus... Je suis vraiment en train de faire les gens qui doutent, quoi.
Bah écoute, ça tombe bien.
Plus la renommée, elle grandit, plus ça grandit aussi, en fait. Parce que je me dis, ah, ce serait facile, en fait, de se laisser bercer par... ce serait facile de se laisser bercer par les voix de plus en plus nombreuses qui disent que ce que je fais, c'est super, ou qui attachent à mon nom une sorte de capital affectif tellement immense que je pourrais dire juste « Salut, ça va ?» et ils diraient « Oh,
oh mon Dieu,
je l'adore, elle est tellement super !»«
Je veux tellement être elle
!» Et à l'inverse, ça renforce la peur. À l'inverse, les voix méchantes, elles se multiplient aussi et c'est dur de jamais les écouter. Donc quand t'entends plusieurs fois par jour des trucs comme, enfin tu vois, à quoi elle sert, tu vois, cette meuf sert à rien, j'en peux plus d'écouter ces conneries, etc. Et tu dis, ah mince, est-ce que en fait, parce que les gens qui m'aiment bien m'ont trop répété qu'ils avaient envie de m'entendre, et en fait du coup j'ai pas bossé, je suis arrivée, j'ai débarqué trop vite, j'ai dit une connerie, ceci est une généralité, merde. Et en fait peut-être que j'ennuie tout le monde, voilà.
Ce serait quoi la facilité? Genre là, si du jour au lendemain tu disais, tu sais quoi, j'en ai marre, je vais juste être genre paresseuse et faire le moins possible, mais que ça plaise quand même aux gens, il se passerait quoi?
Bah je fais l'art de perdre deux, tu vois.
Trois générations suivantes.
Ouais, non, là ça devient chose, parce que du
mais
coup il
faut
que j'écrive dans le futur.
Ce serait chiant, mais...
Et là, c'est plus une facilité, en fait. Là, ça devient, non, ça devient un travail que j'ai jamais fait et tout. C'est un défi. C'est marrant. Non, mais je fais la facilité. Je fais quelque chose que je sais déjà que je peux faire et je sais déjà que ça plaît. Et je prends le moins de risques possible. Tourne toujours autour des mêmes thèmes, je reprends des mêmes silhouettes de personnages et juste les coloris de façon différente, mais je vois bien quoi à qui les gens s'attachent, à qui ils aiment moins tout ça, donc je pourrais faire quelque chose par rapport à ça, et je pourrais, j'ai bien vu aussi que je pourrais passer ma vie à parler de l'Algérie et que je pourrais en faire mon fonds de commerce quoi, ça durerait un peu. Ouais, je sais pas combien de temps ça durerait, mais ça pourrait durer, tu vois. J'aurais pu faire ça 10 ans, je pense, tranquille ou bidou.
Tranquille ou bidou.
Je n'ai pas dit ça. je me disais que cette expression va avec vraiment, tu vois, la flemmardise totale, même l'expression elle-même est naze de flemmardise. Mais au moment de le dire, je me suis dit, est-ce qu'on entend le second degré du truc? Et j'aime pas avoir fait ça.
Je pense que c'est la première fois que tranquille ou bidou a été utilisé dans une conversation sur l'Algérie. En tout cas. T'as peur d'être une fraude, mais il y a déjà eu plein de preuves extérieures et tout ça. De quoi toi t'as besoin? Parce que je suppose que c'est encore plus angoissant, les preuves extérieures de succès, les ventes de livres, les prix et tout. De quoi t'as besoin pour avoir l'impression que t'es pas une fraude?
Ça a jamais été atteint, je pense. Il faudrait une sorte de jury mais créé entièrement par mes soins quoi. qui pourrait me rassurer sur des tas d'aspects un peu contradictoires aussi, tu vois. Il faudrait qu'il y ait des gens qui représentent les différentes choses que j'aime. Donc, à la fois intellectuellement, esthétiquement, et puis en fait j'aime différents trucs esthétiquement, donc ça demanderait déjà plusieurs plusieurs jurés, et puis des gens qui seraient là aussi pour me valider comme personne, pour dire, tu sais, non seulement ton travail c'est bien, on est content, mais en plus tu ne t'es pas mise à traiter les gens comme de la merde pour faire ce bon travail, donc on est content de ça aussi. Bravo, tu as ton diplôme de non-fraude, va t'amuser.
Et t'arrives à faire la distinction quand les gens te font des remarques sur ton travail, à ne pas le prendre pour toi en tant que personne ?
Ouais, parce que, alors oui, quand il n'y a pas de procès d'intention. Ça c'est vraiment le truc qui est hyper chiant, qui est la, enfin tu sais qu'il y a une zone grise de la critique, c'est que tu bascules très rapidement dans le une critique sur mon boulot, c'est un truc. Après la manière dont c'est interprété comme étant non mais en fait ce que Ali Zeniter a voulu faire là, c'est dire gna gna gna, et là tu non mais non. Non. Et puis, et en fait, et arrêter d'utiliser mon nom comme sujet de verbe. ça ne me va. Vous me transformez en personnage, en fait. Ça m'atteint beaucoup, beaucoup. Je pense que ça m'atteint moins d'être un complément d'objet direct dans une phrase comme j'ai envie de frapper Ali Zeniter que d'être le sujet d'une phrase que je trouve complètement fausse comme Ali Zeniter essaye de nous montrer, pas du tout, quoi. Pas du tout. Vous n'avez pas le droit, quoi. Vous n'avez pas le droit de faire une critique qui se base sur ce que vous avez projeté sur moi et qui n'est pas du tout moi. Et en fait, et rendez-moi cette marionnette que vous avez construite qui porte mon nom et deux, trois vêtements et vaguement ma coupe de cheveux. Et les gens vont vraiment croire que c'est moi alors que ce n'est pas moi, quoi. Mmh. C'est votre marionnette. Donc, ça, c'est dur. Ça, j'ai beau. En fait, j'ai beau. Ravaler comme ça avec dignité le mal quoi que ça me fait, je crois que avant la colère c'est un truc ça fait mal quoi donc j'ai beau essayer de le cacher, de dire mais non mais la critique ça m'atteint pas, tout ça, en fait sur mon taf ça va, et même sur mon taf je peux trouver ça hyper intéressant, dire tiens ça a été vu comme ça, tiens c'est par exemple, Bégodeau avait fait un article sur l'art de perdre qui était assez méchant dans Transfuge. Et la première partie, moi, je la trouvais géniale parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il m'apprenait des trucs sur mon taf et sur ma manière d'écrire et sur certaines figures de style que j'avais multipliées. Et pour moi, c'était pas un travail conscient. Et donc, le fait que ce soit décelé et que quelqu'un me le dise, je trouvais ça génial. Et puis après, la dernière partie de l'article, c'était sur ce que j'avais voulu faire, pro-psychologie contre Nietzsche. Et là, je dis, en fait, tu es en train de faire tout seul, de faire tout seul ton ring de boxe. Et en fait, ne mets pas mon nom dessus. C'est pas moi qui me bats contre Nietzsche ou pour la psychologie ou pour machin, etc. Ça me regarde plus. Et là, du coup, ça commence à m'embêter. C'est très long. Mes réponses sont très longues.
Écoute, c'est pour ça que c'est ton podcast et pas de la radio. Donc... j'avais fait un épisode avec Lou Doyon et elle racontait que souvent, elle comprenait des choses qu'elle avait écrites 7 ans plus tard. Toi, c'est quelque chose qui t'arrive des fois ?
Ouais, alors... pas 7 ans. D'abord parce qu'en fait, 7 ans après, je relis pas mes textes. J'imagine que ça pourrait se produire pour telle ou telle raison, mais je les ai un peu abandonnés. Donc, sauf cas particulier, je m'occupe plutôt des nouveau-nés, quoi. Mais non, par contre, le moment, c'est 6 mois plus tard, en fait, parce que le moment où je finis un texte et le moment où il est publié et lu et où je dois répondre à des questions dessus, c'est deux moments qui sont séparés par un intervalle quand même parfois, assez long. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs mois, quoi. Il y a 6 mois, 8 mois. Et ça suffit pour que quelque chose se dépose et que le texte, je l'aborde plus de la même manière. Et en fait, les retours qu'on me fait dessus, il y a aussi des trucs, ça me dessille les paupières. Tout à coup, je me dis, ah oui, c'est un peu, oui, en effet, c'est un peu une évidence. Et j'aurais dû dire que je l'avais fait consciemment. Et en fait, je l'avais pas vu. Et puis, au bout de 2 ou 3 interviews, je l'ai intégré à mon discours de promo et je fais comme si c'était tout à fait conscient. Je sais que bien sûr, donc dans Sombre Dimanche, le jardin coincé entre les rails de la famille Mandy et l'équivalent dans le microcosme du sort de la Hongrie dépecé par le traité de Trianon. Hein, et oui. Donc il y a finalement cette question de comment habite-t-on dans un espace dont les frontières n'ont pas été décidées par nous-mêmes, mais par des puissances qui nous sont supérieures. Et puis en fait,
au début, tu n'avais pas vu ça.
Je ne l'avais pas vu.
Écoute, Alice, là, c'est toi qui fais l'effort. Hein. Moi, je vais bien construire les cathédrales, mais
ouais. Écoute, on va faire un
Ah ouais, c'est vrai.
On va faire un partenariat.
Oui.
Toi, tu te spécialises sur le voilà la taille de pierre calcaire.
Ouais,
on imagine que c'est de la pierre calcaire.
Aucune idée.
Pas... Mais ça doit être un peu friable, sinon on peut pas faire des gargouilles dedans. Si tu peux faire des gargouilles en granit, mais c'est plus long, quoi.
Oui, mais il faut savoir mettre du temps aussi dans quand on construit quelque
c'est
chose.
Vrai.
Hein. On n'a pas envie de bâcler notre cathédrale quand même. c'est marrant, enfin marrant, c'est pas étonnant surtout, mais quand je t'ai posé la question, qu'est-ce que t'aurais peur qu'on te reproche, je crois, un truc comme ça, et t'as répondu que je bosse pas assez. Donc tu mettais pas l'accent sur le retour des gens, mais sur ce que toi t'avais fait. Pour toi, c'est quoi ne pas bosser assez? Est-ce que juste des fois t'as retourné une phrase dans tous les sens possibles et tu dis, tu sais quoi, je vais la laisser comme ça. Elle n'est pas parfaite. Il n'y a pas 8 syllabes, mais fuck it. Tant pis.
En fait, je trouve que c'est à ça que j'ai toujours reconnu un bon travail d'édition. C'est ce moment où c'est la poussière sous le tapis, tu sais, justement. S'il y a cette phrase, t'as essayé 20 fois de la refaire, elle est plus faible. Tu le sais bien. Tu vois bien si c'est la cheville molle qui tremble sur ta tringle à rideau. Tu sais que si ça se pète la gueule, ce sera pour celle-là. Tu l'as vu depuis le début, mais t'as la flemme de tout refaire. Et en fait, tu rends ton manuscrit et quand ton éditrice te le redonne, toutes tes chevilles molles pourries, elles sont soulignées en rouge en disant là, il y a quand même un truc qui va pas. Et tu fais d'accord. Donc c'était une évidence, quoi. C'était un œil acéré sur ce texte-là, c'est que là, je me suis un peu endormie. Et après, oui, non. Après, il y a des trucs où il y a des trucs plus gros, peut-être plus graves, mais où c'est pas de la paresse. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Et là, c'est très difficile pour moi de déterminer à quel moment justement je peux dire je crois que j'ai vraiment vraiment fait le tour, que j'ai atteint les limites du stock d'écriture qui était disponible. Soit j'ai vraiment besoin de ce paragraphe pour je sais pas quoi, des sortes de raisons d'information, de choses qui doivent se passer, etc. Et donc je le garde dans cet état très très faible. Soit je fais tout sauter, mais il y a pas moyen que je m'en sorte, quoi. Faut vraiment que je passe du temps dessus pour être capable de m'absoudre moi-même, de me dire non, j'ai vraiment tout tenté.
Contre quoi tu luttes dans ton écriture?
Plein de choses, je pense. Le fait que j'ai intégré un certain nombre de clichés et de ce qu'on appelle aussi colocation en linguistique, donc un mot qui vient avec un autre, quoi, un peu comme Laurel et Hardy, tu vois.
Silence assourdissant.
Les éclats de rire qui fusent, tu vois, tout ça, c'est genre des trucs qui viennent ensemble, quoi. C'est pas toi qui les as inventés du tout. Et donc évidemment, mon langage est chargé de ça. Il est chargé de dérèglements de la langue aussi qui appartiennent à un certain temps, de notre société, à la fois dans les trucs d'argot, enfin tu vois, qui moi ont marqué mon langage, mais aussi dans le fait que j'ai intégré tout un vocabulaire néolibéral, par exemple. Et donc il faut tout le temps que je réfléchisse à ça, quoi. Je fais des relectures de manuscrits qui sont consacrées que à ça. Je suis vraiment en mode par exemple, et un bon exemple de choses qui m'appartiennent pas du tout, qui sont des marqueurs de mon époque.
Et pour toi, ça, il faut tout gommer pour que ce soit le plus intemporel possible?
Non. Il faut se poser la question de est-ce que je veux que ce soit là ou est-ce que c'est arrivé là malgré moi. Donc il y a ce temps à la loupe comme ça de me dire est-ce que ça c'est vraiment ça que je veux dire. Est-ce que ça s'est glissé ici pour d'autres raisons. Est-ce que voilà qu'est-ce qui a été un automatisme. Et parfois dans les automatismes il y a aussi il y a des choses marrantes, quoi. Il y a des automatismes qui sont pour le coup complètement maladroits et qui peuvent donner des des choses bien, mais il y a une, enfin voilà, pour moi c'est pas possible de faire l'abstraction de cette réflexion sur le langage. Évidemment quoi, il y a toujours une question du doute, de qu'est-ce que tu communiques dès que tu commences à utiliser la langue, qu'est-ce que tu crois que tu communiques, qu'est-ce que tu veux communiquer, qu'est-ce qui passe pour de vrai, qu'est-ce que tu es capable de voir de ce qui, enfin qu'est-ce que tu crois qui passe pour de vrai, etc. Donc il y a un peu ce temps de dissection. Après, je lutte contre des trucs, beaucoup plus débiles. Mais j'ai beaucoup de mal à écrire des scènes d'action. Il y a un peu un truc, je me laisse embarquer par une sorte d'enthousiasme de spectatrice et très rapidement mes personnages se retrouvent à avoir trois bras, tu vois, parce que je me dis, ah, dans une scène d'action il faut qu'il se passe mille trucs et je commence à voir le monde comme un dessin animé, donc tu sais les gens courent trop vite, font trop de choses à la fois, passent comme des tornades, dépassent la falaise et continuent à courir et tout ça, et là je me dis tout ça me demande beaucoup de temps quoi, de reprendre ça, et je suis nullissime en scène de sexe. Là, il y a le magazine Cosette qui m'a demandé il y a pas longtemps. Il me disait voilà, on voudrait faire un hors-série avec des nouvelles érotiques, on voudrait relancer la dignité du genre. On a demandé à plein d'autrices de faire ça. Et tu... Mais juste, je vais vous couler en fait. c'est hyper sympa et tout ça, mais mes résultats sont pitoyables quoi. Je m'oblige à des sortes d'exercices et d'ateliers personnels de scène de sexe dans mon coin pour essayer de m'améliorer, mais ça fait 20 ans, ça ne marche pas. Donc partie des choses contre lesquelles je lutte quand j'écris.
Ton premier roman, tu l'as écrit, t'avais genre 16 ans. Mm. Est-ce qu'il y avait des choses que tu te permettais à ce moment-là, que tu te permets plus aujourd'hui, ou parce que à 16 ans, il y a cette sorte de fougue, de premier degré, un peu à toute épreuve, et de trucs où ouais, tu vas moins prendre du recul et donc tout est plus explosif.
Non, au contraire.
Ah ouais?
Au contraire, c'était quelque chose qui était très contrôlé. Alors extrêmement, enfin contrôlé, mais avec de toute façon mes œillères de gamine. Enfin parce que quand j'ai commencé à l'écrire, du coup j'avais 14 ans. Donc il y avait plein de choses qui m'échappaient un peu, mais c'était très contrôlé parce que je voulais que ce soit de la littérature, et donc il fallait tout le temps tout passer au crible de qu'est-ce qui à mes yeux faisait littérature, et ça faisait littérature, ça ne faisait pas littérature. Donc on pouvait parler de ci mais on pouvait pas parler de ça, on pouvait utiliser telle technique mais pas celle-là, et puis qu'est-ce qui faisait adulte aussi. Il y avait ça très très fort. D'une certaine manière, s'il y a une fougue adolescente, c'est celle de se comprimer complètement pour avoir l'air d'une grande, de se dire je veux atteindre une sorte comme ça de posture, je veux pas être traitée comme une enfant, je veux parler de la souffrance du monde, j'ai tout compris de toute manière, donc il faut que je porte une sorte de dignité compassée, tu vois, pour être traitée comme une adulte. Donc c'était pas du tout lâchons les chevaux, j'ai 15 ans, je pleure, je crie et la vie est beaucoup plus intense et tout passe quoi. Non non.
Et qu'est-ce qui fait la littérature ?
J'en sais rien.
Merci. Et du coup, t'en parles beaucoup, juste, bah, tu parles de ça dans l'essai, de tous les codes qu'on a. Le seul mot qui me vient, c'est ingurgité, mais ce n'est pas le bon qu'on nous a inculqué, donc qu'on continue à faire. Comment tu te retrouves confronté à ça et comment tu les évites? Moi, je me rends compte souvent quand j'essaie d'écrire des trucs, que ce soit des n'importe quoi, j'ai souvent tendance non pas à écrire ce que je veux voir ou lire, mais ce que je m'attends à voir ou lire. Tellement on est toujours dans les mêmes histoires, dans les mêmes trucs, les mêmes rebondissements. Comment toi, tu appréhendes ça? Comment tu l'évites? Et est-ce que tu y arrives?
Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus conscient chez moi depuis quelques années, mais au départ je fais la même chose que toi, c'est-à-dire que j'écris des choses qui viennent de en fait, qui viennent de ma pratique de lectrice ou de spectatrice. Et donc, y a quelque chose finalement d'assez attendu, quoi. Et du coup, quand je commence à écrire, bah, ça me paraît évident qu'en fait, il faut que mes héros soient masculins. Bon, évidemment, il y a aussi ce kiff immense qui est que quand je crée des héros masculins, du coup, je fais un saut de genre et ça me permet de... ça me permet de d'écrire hors de ma peau pendant 2 ans et c'est super quoi. Mais il y a aussi cette chose qui est attends pour que ça vienne avec la dignité du roman, genre bien sûr que mon héros c'est un jeune homme lancé comme ça. Et alors souvent après du coup je vais les
tuer.
Alors ça arrive, après je les re-sauve, mais je vais les dérastignaquer, c'est-à-dire tu vois leur enlever cette ambition dévorante trop caractéristique du personnage du roman 19e. Mais quand même ce sera des jeunes hommes quoi. Et après je les dénerve, je sais pas comment on pourrait appeler ça, je les rends beaucoup plus perclus de doutes, d'hésitations, mais voilà, dans un premier temps, je répète des choses et puis la manière dont ils regardent les femmes, c'est aussi tout un tas de trucs que j'ai, bah je vais reprendre ingurgité quoi, mais avec dans un premier temps cette idée que je peux pas créer des personnages féminins qui soient pas beaux, que bien évidemment une femme ça arrive dans une scène de roman avec une description qui souvent la rattache à un animal, alors qui un oiseau, qui un félin, machin, et puis voilà, et puis elle suspend le temps quoi par sa beauté. Et du coup c'est quelque chose sur lequel je travaille après. Et c'est assez passionnant aussi parce que du coup je me dis mais je peux pas donner le même degré non plus de conscience de ces choses à tous mes personnages. Par exemple, j'ai des personnages qui considèrent que leur vie sont très chiantes, j'ai des personnages qui considèrent que leur vie est absolument trépidante, j'ai des personnages qui ont des rapports aux narrations, en fait, aux narrations d'eux-mêmes qui sont très différents, et des personnages qui ont des rapports de genre aussi très très différents. Et c'est pas parce que moi je suis consciente que je répète des vieux schémas dans mes trucs que mes personnages doivent en être libérés. Je me dis bah non, il y a plein de mecs qui continuent à penser qu'une femme doit débarquer dans leur vie comme un cygne blanc sur un lac gelé, tu vois. Donc il faut que je reprenne ces mêmes manières de faire, juste que j'ajoute un petit léger décalage. Est-ce que c'est une ironie de la narration? Est-ce que c'est un personnage avec un autre jugement en face? Est-ce que c'est le personnage féminin qui dit mais non mais moi je refuse d'être pris dans ces métaphores animales, ça suffit.
Sauf si c'est genre une perdrix.
Alors ça en kabyle c'est le plus beau. C'est la manière d'appeler l'amoureuse. C'est ma perdrix. J'aime beaucoup aussi, du coup, tu sais, faire des comparaisons entre les langues. Quel est l'animal qui revient ou quelle est l'image en kabyle? Tu dis, tu dis ma perdrix ou mon foie pour parler de quelqu'un qui t'est très cher
et qui est bien imbibé.
Ouais, alors pas forcément.
Comment tu travailles de manière très concrète? Est-ce que quand tu te lances, juste tu vas à fond sans te corriger pour garder un peu genre l'énergie dans laquelle t'es, et puis après tu t'occupes de refaire les choses de manière un peu plus organisée, hein, un peu plus fignolée, et justement affiner les traits des personnages, ou est-ce que dès le départ t'es assez minutieuse dans genre avancer lentement pour avoir moins de corrections à faire?
Non, je suis dans une optique globale à grande échelle, ouais. Je suis plutôt dans un premier temps de production qui essaye de se regarder le moins possible, parce que je sais que de toute façon je vais beaucoup retravailler après, que plein de choses prennent du sens dans une économie globale, donc commencer à couper maintenant c'est pas forcément utile. Enfin, par exemple, je me laisse même répéter. Il y a certaines choses qui reviennent, qui vont revenir plusieurs fois, mais je les bouge pas parce que je sais pas là où elles seront le mieux. Mais je peux écrire 4 fois une variante sur un même paragraphe ou quelque chose comme ça, quoi. Et aussi parce que je sais que ça va me rassurer quand j'aurai assez produit. Je me dirai, il y a quelque chose qui est là. Bien sûr, ça va être rebossé, ça va être coupé, ça va être augmenté, mais mais c'est plus le néant dont il faut tirer un livre. C'est allez, c'est 100 pages. Ah, et 100 pages en fait, c'est rassurant. Donc j'essaye de pas me bloquer, de pas ralentir la production de ces 100 pages qui va me rassurer sur ma capacité à écrire ce livre. Et si je dis ça marche à grande échelle, c'est parce qu'en fait dans le détail, il y a des scènes qui me viennent très vite avec des contraintes d'écriture très précises, j'ai envie de les écrire dans ce cadre-là, en me fixant cette contrainte d'écriture, et elle, par exemple, ça a aucun sens de les écrire en gros. Et ben par exemple, ces octosyllabes dont je parlais dans Bookmakers sur la scène de la fin de la première partie de L'Art de perdre sur le truc des bateaux, c'était une évidence pour moi qu'il y avait, enfin que cette scène-là, je voulais l'écrire en tenant à l'écart mes personnages et en travaillant sur la liste. Et le rythme, quoi. Et donc, elle a été trois fois plus longue, cette liste, avec tous les objets, etc. Mais cette scène, elle est toujours apparue comme une espèce de comptine qui dit, il y a ceci, ceci, cela, il y a ceci, ceci, cela. Elle a jamais été autre chose. Et donc, du coup, ça veut dire que forcément, comme ça se travaille à l'oreille, ça se travaille sur la précision. Ça aurait pas de sens pour moi d'écrire rapidement une scène en me disant, et celle-là, demain, je la passe en alexandrin. Celle-là, demain, je la passe si je sais que c'est ça que je veux faire précisément, alors je commence déjà le travail.
T'es quel genre de personne quand t'écris?
je sais pas trop. Personne me voit. Et du coup.
T'es toute seule quand t'écris?
Quand j'écris, ouais, toujours. Après, je sors, ça m'arrive de sortir de la pièce où j'écris et qu'il y ait des gens parce que j'arrive pas tout le temps à écrire dans la solitude la plus totale. Et ça, en fait, c'est compliqué, quoi. J'essaye d'avoir de la solitude la plus totale parce que je sais jamais dans quel état je sors de la pièce d'écriture.
Parce que t'es concentrée ou parce que c'est éprouvant?
Parce que je suis concentrée, parce que ça peut être très très dur. Alors, l'écriture, ça peut être très dur parce que c'est difficile à sortir. Je saute parce qu'il y a un vrai combat, quoi, acharné autour de trois pauvres incises, mais quand même, ça fait des luttes à mort parfois, de dire, j'arrive pas à la bouger, etc. Ça peut être très éprouvant à cause de ce que j'écris et de ce que ça me demande de traverser. Par exemple, quand j'écrivais Sombre Dimanche, il y a donc ceci est un spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais il y a une lettre du grand-père qui apparaît assez tard dans le roman et où il raconte un massacre en fait auquel il a participé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le temps de la documentation était extrêmement compliqué et le temps de l'écriture aussi l'a été, quoi. C'est-à-dire comment je crée un type qui a participé à la Shoah sous une forme en fait, c'est ça qui était horrible, quoi. Sous une forme originale, donc qui n'est pas rentré dans la représentation globale de la Shoah, shooter des types sur un fleuve gelé, etc. Ça fait pas partie des trucs. Et donc, il arrive à se dire qu'il a pas participé à ça, parce qu'en fait, c'est pas une chambre à gaz, quoi. C'est quelque chose à part, c'est un événement isolé. Comment il parle de ça? Tout en me disant que, en plus, j'essayais d'inventer un langage qui soit, qui à la base devait être du hongrois, mais j'écrivais en français, donc il fallait que j'essaye de garder une trace de ça, quoi, de cette langue qui est pas la mienne, mais qui est censée préexister à celle dans laquelle j'écrivais. Donc là, pour le coup, il y avait vraiment une sorte de mise dans un corps dans lequel j'avais pas envie d'être, quoi. J'essayais de me dire, ok, pense en hongrois comme un vieux mec qui a participé à ça. Et du coup, quand le mec avec qui j'étais à l'époque rentrait de ses répétitions où il avait joué avec son groupe de jazz, sans penser à la Shoah, lui.
Ça arrive.
J'étais dans un état, une sorte de peu lamentable, de l'humanité n'a aucun sens. Et lui disait, si on allait au restaurant, je disais, mais pourquoi se nourrir? Tu vois, est-ce qu'on ne devrait pas tous s'éteindre plutôt de manière globale? Tiens, je tombe sur le tapis. Bon, ça c'est rare, mais voilà, ça peut arriver. Et puis après, juste c'est hyper chiant parce que, enfin, sinon de manière plus légère, quoi, c'est chiant parce que c'est non communicable. ce que tu fais pendant ta journée. C'est très dur de réussir à partager ça avec quelqu'un, tu vois. Je voyais ça beaucoup quand j'étais encore à Paris tout le temps et que du coup je sortais avec mes potes à la fin de mes journées de travail. Ben même les potes qui avaient pas du tout le même boulot, elles arrivaient complètement à se comprendre sur un partage d'expérience, sur le, enfin tu vois, genre mon collègue m'a parlé comme ça, machin, mon boss est une vieille raclure. J'ai essayé de faire ça et ça a pas marché avec telle ou telle personne, gna gna gna. Enfin, je me dis il y a des choses qui se partage complètement. Et puis moi, je pouvais pas arriver et dire, putain, j'ai niqué une fin de chapitre, quoi. J'ai passé 6 heures sur ce truc et en fait, ça dérythme le tout. Personne te dit, oh là là, waouh, chaud, ah, le bâtard, ton personnage, tu devrais, en fait, tu sais quoi, tu devrais lui dire que personne te parle comme ça. Et tu dis, non, ça demeure un truc. Ça intéresse un peu que moi, quoi. Et comme ça m'intéresse vachement, je suis frustrée de pas pouvoir en parler. Donc autant que je reste toute seule, voilà.
Dans l'épisode 3 de Bookmakers, vous parliez de Virginia Woolf et du fait que dans une chambre à soi, elle dit qu'il faut non seulement une chambre à soi, mais aussi une rente, tout ça. Et donc tu expliques que en effet, pour écrire quelque chose de grand, il faut un temps long. Et pas des petits bouts fragmentés à gauche, à droite. Et là, j'ai l'impression que les gens ont de moins en moins de temps long parce qu'un milliard de stimulations de partout. Est-ce que tu as l'impression que c'est un truc qui se perd, que c'est de plus en plus difficile de faire des œuvres qui ont beaucoup de sens? Est-ce qu'il y en a moins? Je pense que c'est un peu une de mes angoisses. Parce qu'il y a tellement de moins en moins de concentration possible sur une durée longue.
Ouais, je pense que c'est un peu compliqué. En effet, en ce moment, de trouver du temps, de trouver une justification assez solide pour soi-même et pour les autres, justification au fait de se donner ce temps-là. Quand ça concerne une œuvre artistique, c'est encore plus compliqué. Tu vois, j'ose me dire que je sais pas que si tu passes 10 ans à bosser sur un vaccin ou sur une technologie ou sur machin, cette représentation du fait que ça prend du temps, qu'il faut tâtonner, tout ça, et puis l'idée que c'est très important, et puis l'idée aussi que ça va générer plein de thunes, font que c'est accepté dans d'autres domaines, mais peut-être que c'est moi qui les fantasme, quoi. Le truc de je vais prendre 10 ans pour faire un livre, ben c'est vrai que dans la jeune génération, je vois pas qui fait ça, quoi. Moi je suis une immense fan de Franz Zehn qui prend des 6-8 ans pour faire des livres, et chaque fois je me dis tiens, enfin il y a ça, quoi. Enfin il y a ça évidemment dans ce que j'aime dans Freedom, dans cette construction qui est absolument géniale, même Purity que j'aime moins, quoi, à cette construction qui est formidable, et de me dire ouais, mais le gars passe 8 ans, 10 ans sur ses livres. C'est probablement pas atteignable si on essaye de tout compresser. Mais je sais pas comment on fait ça, et d'autant moins que moi j'ai toujours été une touche à tout, et que en fait le fait qu'on me propose des choses que j'arrive pas à refuser parce que tout m'intéresse, et toutes les variations autour de l'écriture m'intéressent, et la nouveauté, et apprendre en fait des choses m'intéressent beaucoup, ça bousille un peu mon temps long.
Mais t'arriverais à être concentré sur un projet pendant 6, 8, 10 ans?
Je sais même pas. J'ai hyper envie d'essayer, mais ça fait 10 ans que je dis que je vais prendre, fait 10 ans que je dis que je vais prendre 5 ans pour faire le prochain truc sur lequel je travaille. Et en réalité, arrive à un moment une sorte de d'épuisement de l'envie qui fait que il faut que je m'en débarrasse. Je me dis je peux plus, en fait.
C'est-à-dire soit que t'abandonnes l'idée, soit que t'y ailles, mais à un moment prendre une décision, c'est ça que tu veux dire?
Ouais. La fameuse citation de Cioran de un livre est pas terminé quand vous l'avez, je sais plus exactement quoi, quand vous l'avez raffiné jusqu'à la perfection, un livre est terminé quand vous savez que vous préférerez brûler le manuscrit plutôt que de bouger la moindre virgule. Bon bah ce moment-là, il est toujours arrivé assez vite chez moi, c'est-à-dire que je fais 2 ou 3 ans et puis il y a un truc de je peux plus le voir en peinture quoi. Donc évidemment je me pose la question de si je prenais un vrai break, si je prenais une année quoi, je me disais ok très bien, je fais 2 ou 3 ans, après je fais une année où j'en sais rien, j'apprends la planche à voile, je me lance dans le maraîchage, je n'écris pas et surtout je ne touche plus à ce texte là. Est-ce que je suis capable de passer l'épuisement pour retrouver j'allais dire une deuxième vague, mais en ce moment c'est un second souffle en fait. Mmh. Est-ce que ça arrive? Et je peux pas savoir en fait avant de l'avoir fait. C'est des trucs, je suis mon seul cobaye parce que c'est parce que ça marche sur les autres que ça marche sur moi. Donc c'est ça aussi. C'est un peu chiant parce que du coup, j'ai que un cobaye quoi. Et donc le cobaye il peut pas faire toutes les expériences à la fois. Il y en a plein que je suis obligée de pas faire parce que ouais. Bref, c'est encore une image animalière, quoi. Du coup, tout le monde voit un petit rat de laboratoire qui à la fois doit courir dans un labyrinthe, se faire injecter des trucs et puis tenter des nourritures. Enfin, voilà, tout en reconnaissant des images pour voir s'il a de la mémoire. Ouais. Je peux pas tout faire, quoi.
Est-ce que des fois, t'as l'impression d'avoir été genre pressé, vidé comme ça, d'avoir genre tout donné et t'es en mode mais foutez-moi la paix, en fait?
En ce moment, ouais.
Ouais.
Ouais, mais c'est dur. Cette putain de pandémie, c'est compliqué. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose, de toute façon, qui est de l'ordre d'un brouillage de ma compréhension, j'obtempère tellement que j'ai l'impression que je fais plus que ça. C'est-à-dire que obéir aux directives nationales, ça fait que j'ai l'impression au bout d'un moment, j'ai l'impression juste que j'obéis à tout, quoi, que dans ma vie privée, même dans mon truc, dans mon écriture, j'obéis à des choses qu'on me demande de faire, à des dates butoirs qu'on m'avait fixées, qu'on déplace, qu'on machin, mais que mon désir est plus le moteur de ça. Et à partir du moment où, en fait, c'est pas mon désir qui me met en branle, pour utiliser une expression qui est assez malheureuse à l'oreille. Du coup, ça va être ma réaction première, quoi. Quand on me demande quelque chose, mais ça va, quoi. Là, j'ai plus rien. J'ai fait 4 livres en 3 ans. Je fais 4 livres en 3 ans. Je peux pas être sur scène. Ma tournée, elle est annulée. Les choses que je voulais vraiment faire, elles sont pas là. Et je peux pas penser à ce que je vais écrire après. Ça m'intéresse pas. J'ai plus rien là. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. Je crois que je vis le premier moment de déprime de ma vie. Je vais avoir 35 ans. C'est la première fois que je traverse un moment de. Ouais, de grosse déprime.
Bravo! et ton désir, il est où? Enfin, il est vers quoi? Il est. S'il y avait plus de pandémie, tu ferais quoi?
Je sais pas. Je sais pas, ça a abîmé ma capacité à vouloir, là. Donc, je sais pas.
Comment tu hiérarchises... Moi, quand j'écris des blagues pour la scène, il y a 4 trucs que je prends en considération. C'est est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est beau? Et est-ce que c'est original? Il y a 4 piliers comme ça. Okay. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu hiérarchises ou que tu choisis à certains moments? Comment tu organises ça ou est-ce que tu y réfléchis pas du tout?
Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. pour moi. Je me trouve pas forcément apte, tu sais, à juger. Enfin, j'imagine que pour toi aussi, ça doit être une belle question de prise de tête, quoi. Mais comment tu juges si oui, c'est drôle, oui, c'est beau, et puis après, une fois que t'as dit bien sûr, t'es rassurée.
J'adore.
Et tu reviens pas dessus. Non, ce passage est beau. Et ce passage est hilarant. C'est bon, roule, tu vois, continue à écrire. Donc non, moi, je me pose un peu la question en termes de pourquoi ? Genre, c'est quoi la raison d'être première de ce passage ? Et en gros, c'est enfin que c'est une sorte de je veux que ça produise quoi comme effet ? Et qu'est-ce que j'ai mis comme moyen à disposition pour que ça atteigne ça, quoi ? Et est-ce que je pense que ça marche ou que ça marche pas, ça devient plus compliqué, mais du coup, qu'est-ce que je veux produire comme effet, ils vont revenir un peu à tes questions. Est-ce que c'est un passage où j'ai envie que ce soit beau ou très laid, mais en tout cas j'ai envie qu'il y ait un rapport vraiment esthétique à ce que j'ai fait avec la langue sur ce passage-là. Est-ce que c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion. Est-ce que c'est un moment aussi purement de qui est une béquille du récit, comment je la camoufle?
C'est-à-dire une béquille du récit quand il faut que tu casses des infos et que
ouais. Okay. Ouais. Quand t'as besoin de caser des infos ou de faire arriver très rapidement quelque chose, ouais, parce que t'as pas envie en fait. Enfin comme je disais. Que l'écriture, elle est vraiment liée pour moi aux questions de désir et de plaisir d'écrire. Il y a des trucs où je me dis non, là, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de faire toute la scène qui explique comment il en arrive là. Par contre, j'avais envie d'écrire le point A. J'ai très envie d'écrire le point C, mais il faut que je bazarde ce point B.
Tout à coup,
ouais. et les choses revinrent à la normale. Et donc,
une fois sorti de ce faux pas. Il y a souvent des choses très marrantes. Est-ce que tu avais fini de répondre ?
Non, mais c'est, j'allais arriver au fait que le fait de est-ce que c'est drôle, ça fait aussi partie des questions que je me pose sur les trucs. Enfin, quel est le pourquoi ce passage ? Parce que j'ai envie de faire rire le lecteur ou la lectrice. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour machin, pour faire ça ? Est-ce que je pense que ça marche, etc., etc. Mais donc tu allais dire.
Oui, il y a souvent des choses très marrantes dans ce que tu écris. J'ai découvert que
je te l'ai fait répéter juste pour avoir le
non,
compliment.
Mais tu veux, merci, je t'enverrai cette partie-là. Si tu veux une nouvelle sonnerie.
Super.
J'ai découvert que j'adorais les métalleps.
Ouais.
Écoute, je ne savais pas. C'est mon nouveau kink. Est-ce que c'est un truc que t'aimerais développer davantage, aller vers là? Est-ce que c'est un, ou c'est juste t'aimes bien mettre des petites touches dans ce que tu fais?
Alors, j'aimerais développer davantage les métalleps ou l'humour?
L'humour. Mais les métalleps, je suppose aussi.
Ouais, les métalleps, la réponse est oui. Et l'humour.
Attends, est-ce que tu peux peut-être, pour ne pas exclure les gens,
alors, les métalleps, c'est des contaminations, ou des petits bons, pour rester dans une optique un peu lapinou métaphore animale, des petits bonds entre des niveaux de la fiction qui devraient pas coexister. Donc, par exemple, c'est un personnage qui va essayer de s'en prendre à son auteur, c'est un narrateur qui était censé être un narrateur omniscient, donc qui n'intervient pas, mais qui tout à coup va se retrouver face au personnage en disant en fait c'est moi qui raconte l'histoire depuis le début. Ce genre de choses.
Des notes de bas de page qui jugent le texte.
Ou des notes de bas de page qui ne se contentent pas de se dérouler parallèlement au texte, mais qui font un petit dialogue. Dans La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, un personnage qui sort de l'écran du film pour s'enfuir avec une spectatrice qui est là dans la salle. Donc c'est ça la métalepse, et c'est plein de magie. Et sur la question de est-ce que je voudrais développer davantage l'humour, je crois que je suis au max de mes capacités.
Ah ouais?
Non, j'en sais rien. C'est très dur, quoi. C'est très dur. C'est très. Enfin, et en même temps, tu dois. tu dois connaître ça par cœur, mais je trouve que c'est le truc aussi le plus vexant, qui, enfin, d'être se trouver seul, quoi, de faire un four avec une blague, c'est mille fois plus vexant que de faire un four avec une scène pathétique. C'est-à-dire, si je te raconte quelque chose en jouant la musique la plus triste du monde sur le plus petit violon du monde, comme dit cette expression anglaise que j'aime bien, si tu pleures pas, c'est pas grave. Enfin, tu vois, genre, bien sûr, je pourrais, t'es quand même un peu dur, tu vois, mais si tu ris pas, alors que j'ai tout donné dans ma vanne, c'est une solitude qui me fait très peur.
Ouais.
Donc je pense j'y vais par petites touches, quoi. Et parfois, parfois quand je joue Je suis une fille sans histoire, j'ai fait que 8 représentations avant que tout soit décalé, mais parfois j'ai vécu ces grands moments de bide, de vortex.
Ah
où
ouais?
Tu te dis, mais hier vous aviez ri, que se passe-t-il ce soir, tu vois, genre
vous êtes cassé.
Est-ce que je sais pas, tu sais, genre est-ce que j'ai raté ma manière de délivrer le truc, genre rythmiquement j'ai pas vu, mais je sais pas, j'ai bouffé 2 syllabes, ça suffit pour qu'on perde un truc. Est-ce que c'est le moment où les gens s'endorment un peu parce qu'il fait très chaud et puis ils vont se réveiller un peu plus tard, et puis est-ce qu'il faut que je coupe cette blague, puis dans ma tête tout va très très vite, genre, est-ce qu'il faut que j'arrête de toute façon, est-ce qu'il faut que
je vais quitter cette scène,
est-ce qu'il faut que je m'en aille et que je ne revienne jamais parce que personne n'oubliera la gênance de cet instant.
Je vais aller m'enterrer dans un jardin le plus proche.
Je vais faire semblant de me faire très mal et comme ça ils vont tous culpabiliser et ce sera leur faute, etc. Ouais. T'as ça aussi ou c'est non au bout d'un moment quand tu te dis genre j'y suis allée pour faire des blagues, ça fait partie du risque du métier, tu oublies la dureté de ça.
C'est en fait au bout d'un quand vraiment tu te prends un bide mais monumental, mais genre je pense que ça m'est arrivé 2-3 fois vraiment, mais tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, et tout le monde perd son temps en ce moment, vous, moi, vraiment autant tout arrêter. Mais en fait il y a des moments où ça va tellement loin que c'est drôle. Et tu te vois un peu de l'extérieur et tu te dis mais comment ça va être drôle à raconter parce que c'est horrible.
Ouais, mais il y a toujours une qualité du naze poussé au
le naze devient très vite du génie quand il va trop loin.
J'ai eu une soirée comme ça où je me suis dit mais donc là pas du tout de jeu mais de truc de me dire tu sais ce moment de ma vie est extrêmement naze et en même temps je suis capable de dire c'est terrible et qu'est-ce que j'aime d'être arrivée à ce truc-là, quoi. J'étais partie faire une rencontre à Gap autour de mes bouquins. Je pense que ça devait être au moment de Sombre Dimanche. Et il faisait terriblement froid et j'étais accueillie par des vieilles dames d'une association et elles étaient hyper sympas, mais juste, on avait un gap d'âge.
Standing ovation.
assez impressionnant, pas forcément les mêmes envies, tu vois, de quoi faire de notre soirée. L'idée d'aller boire des bières pendant des heures après la rencontre, ça leur traversait pas l'esprit, tu vois. Et donc je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre d'hôtel qui était glaciale, elle aussi. Il y avait eu un problème en fait d'électricité pendant la journée, à manger une pizza froide elle-même en regardant American Pie 4 en français parce qu'il n'y avait pas moyen de l'avoir doublé sur la télévision au-dessus de mon lit, et cette chambre était vraiment genre un peu bleu et vert hôpital, la pizza était vraiment vraiment froide et American Pie 4 en français c'est vraiment pas bon, et là je me disais voilà ça c'est bien, quoi, et ça aussi ça me préserve de toute idéalisation de ce que c'est que la vie d'écrivain publié. Et en même temps je me disais non, c'est pas vrai, c'est une autre idéalisation, c'est celle à l'envers, c'est celle de, tu vois, genre regardez-moi être un commis voyageur de moi-même dans des situations encore une fois peut-être John Fantesque, tu vois, et après
oui,
je suis sortie tuée des craves.
oui. Ça t'apporte quoi la scène, justement? Qu'est-ce qui, parce que de base, Je suis une fille sans histoire, c'était un seul en scène. Pourquoi tu l'as écrit comme ça plutôt que sur papier directement? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans?
Ben c'est, je vais te dire un truc vraiment bateau, quoi, mais c'est le vivant. C'est qu'il y a il y a quelque chose de génial dans ce côté malléable de ce que tu fais en face de gens, en étant capable de ressentir si ça passe ou ça passe pas, ce que tu es en train de dire à la salle. Tu dirais là, attends, il faut absolument que je ralentisse. Je vois les yeux écarquillés quand les gens, je suis encore partie à mon truc de locomotive parce que je suis angoissée. Ou alors tu te dis, tiens, ça passe bien, j'ai l'impression qu'on pourrait rester 3 heures là ensemble. Et puis c'est d'une certaine manière cette possibilité de l'accident, je crois que qui m'a toujours plu comme spectatrice. Il y a quelque chose aussi que j'avais envie d'expérimenter en tant que performeuse. C'est le contraire de ce qu'est un livre, quoi.
Oui, c'est vraiment tout l'opposé. Parce qu'autant un film, tu peux aller checker un peu l'ambiance dans une salle de cinéma et tout, autant un livre, tu vas pas faire toutes les maisons.
Non, c'est ça. Tu sais que même si tu faisais le tour des librairies, ce qui est déjà un peu gênant, ouais. Tu sais, tu risques d'être reconnu. Donc tu le fais pas, ou tu le fais plus. J'avoue, je l'ai fait au tout début, quoi. Mes premiers livres, j'allais dans les librairies voir, tu vois, s'ils étaient là, s'ils étaient dans les rayons. Si, avec un peu de chance, est-ce que je pouvais tomber sur quelqu'un en train de l'acheter? Mais donc, même si tu fais ça, ce que je fais plus, je le redis. tu seras jamais là au moment où les gens lisent, et même les quelques fois où ça m'est arrivé de tomber sur quelqu'un qui lisait un de mes bouquins dans le train ou dans le métro et tout, j'ai l'impression que c'est obscène, tu sais, genre c'est, on est tellement pas habitué à ça, ni lecteur et lectrice, ni les auteurs, quoi, que tout à coup quand ça se produit, mais je deviens toute rouge, j'ai le cœur qui s'emballe, je me planque derrière le dossier du siège en disant oh mon dieu, il faut pas qu'elle me voie.
Mon rêve, ce serait que tu lui spoiles et que tu partes en courant.
L'immeuble tombe sur eux tous et ils meurent.
Ou alors tu réalises après l'impression que t'as laissé un paragraphe de où ils meurent. Et puis l'histoire continue comme si de rien n'était.
Tu sais que ça fait partie des trucs où généralement, ça arrive assez souvent qu'au dernier moment, avant que j'envoie le manuscrit, donc pour le ce qu'on appelle le BAT, quand il va partir à l'impression, le bon à tirer, il y a toujours un truc qui apparaît et qu'on aurait dû voir, tu vois, genre ça fait un an qu'on aurait dû voir que ça devrait pas être là, quoi.
Genre quoi? Genre à retravailler.
Avec cette voix, évidemment. À développer. Non, genre... juste avant l'oubli, le bouquin que j'ai publié en 2015, il y a un même endroit qui, au fur et à mesure du livre, est à la fois une plage de sable, une plage de galets et une prairie d'herbe. Et là, tu dis, mais c'est, enfin, merde! C'est pas la casquette de Charles Bovary, tu vois. Genre, je suis pas en train d'essayer de créer un effet surréaliste. Donc, quelqu'un aurait dû, ou un lecteur ou une lectrice, tu vois, aurait pu voir que ça ne se tenait absolument pas. Dans L'Art de perdre, il y a eu une version magnifique où il y a 4 ans qui s'écoulent en 1 an. Et donc tout à coup, genre tous les gamins sont 4 classes au-dessus, mais en fait il s'est passé que 1 an. Et là tu dis oh là là, alors là ça va piquer, quoi. Là si je laisse, c'est une évidence que quelqu'un va s'en apercevoir dans les premiers mois et que je vais recevoir une lettre enflammée de vous foutez de la gueule de la chronologie.
Oui. Non, en vrai les lecteurs. Enfin, c'est un livre, c'est tellement un truc, on se dit, mais ça a dû passer par 1 milliard d'étapes qu'on croira d'office que c'est un effet ou une volonté.
Je me suis demandé si je le reprenais en le magicalisant, tu vois, en me dire, vas-y, en plus, comme ma première personne intervient dans L'Art de perdre, en me disant, voilà, un peu, c'est moi qui raconte, quoi. Je me dis, je peux le faire. Je peux mettre mon moi de narratrice, distorsion, juste parce que
j'étais saoule.
Je veux. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est moi qui raconte. Drop the mic and go, tu vois. Non, j'ai tout repris et j'ai changé mes scènes et tout ça pour que la chronologie redevienne, Mais il subsiste, voilà, c'est ça, cette espèce de peur comme ça de oh là là, peut-être quelque chose est passé sous le radar d'extrêmement honteux. Après, c'est généralement des détails, mais on a plein de lettres de plainte, tu sais.
Ils disent quoi?
Vous serez sans doute ravis d'apprendre que on ne dit pas des pâtes pour un cheval parce que c'est un animal noble, un cheval a des jambes. Oui. Merci de bien vouloir corriger page 332. Tout ce genre de choses. Oui, alors, comme les premiers téléphones sont arrivés en telle année, c'est quand même un petit peu étonnant qu'ils aient un téléphone dans leur appartement HLM. Et tu dis, alors je sais, en fait, du coup, enfin, ça fait partie des recherches que je fais parce que ça me foutrait mal de mettre des objets qui n'ont pas encore été inventés là. Donc de dire, oui, là, j'ai vraiment, vu le pourcentage de foyers français qui étaient en effet dotés d'un téléphone privé, je sais que j'ai un peu poussé ma chance, mais parce que j'en avais besoin pour créer une conversation. Donc, voilà, je suis désolée si vous trouvez ça offensant. C'est un peu, tu vois, on fait du service après-vente, quoi.
Et les gens prennent le temps de t'envoyer les lettres pour ça?
Ouais.
Waouh. J'adorerais avoir leur temps.
J'ai vécu aussi une très, très belle rencontre. j'étais avec Laurent Binet et Julia Carninon. Et il y a un monsieur qui, dans la salle, à la fin, au moment des questions, s'est levé parce qu'il avait fait une liste pour Laurent Binet, des pages qu'il aurait dû couper dans la septième fonction du langage. Oh, et là, il y avait vraiment un côté, c'était quasi une performance artistique, tu sais, la page 17, la page 32,
oh, wow.
La page 44, 45, 46, tout entre 221 et 2. et au début, on était un peu mort de rire, puis c'est devenu rapidement très long, puis ça a recommencé à être amusant, puis on me dit, enfin, c'est bon, en fait, c'est pas très parlant. C'est pas très parlant pour les gens qui n'ont pas lu ce roman et en l'ayant appris par cœur, même Laurent sait pas forcément à quel passage ça fait référence exactement, parce qu'on, c'est pas nous qui faisons les numérotations des pages, donc peut-être monsieur, faites glisser le mot, faites-nous passer le mot, mais pas comme ça, quoi. Pas
une... Et il a répondu quoi?
Il boudait un peu, c'est votre avis.
Oh, waouh. Ah, putain, c'est dingue. Mais l'audace! L'audace des gens.
Ouais, mais il y a quelque chose en moi qui admire ça, quoi.
Ah, mais totalement.
Je rêve un peu d'aller à une rencontre maintenant où, ou peut-être je viendrai voir ton spectacle un jour, mais et à la fin je te dirai entre 2 minutes 31 et 2 minutes 37 tu coupes. Ouais. Du coup tu me verrais éclairé par mon chronomètre dans la salle pendant
si
tout
tu
le
veux,
spectacle.
À la fin du spectacle tu montes sur scène et on débriefe ensemble.
Fanny s'excuse, elle aurait dû couper le passage entre 14h42 et 14h45.
C'est ça.
Non.
C'est quoi ton projet de film pour cet été? Ce que tu peux déjà dire.
Je t'ai dit à quel point j'étais mauvaise en pitch.
Oui.
Mais du coup, c'est un long métrage de fiction que je réalise avec mon mec. Qui parle d'engagement. Dans tous les sens du terme, ça fait un engagement politique, engagement amoureux, engagement amical. La grosse question, c'est comment tu arrives à te projeter dans un avenir à plus ou moins long terme quand tout est incertain, voire menaçant. Et donc, c'est l'histoire d'un type qui est dans une... lancé dans une campagne électorale. Il est directeur d'une campagne électorale. On est en pleine canicule. L'avenir climatique est très incertain, l'avenir politique aussi. Et il reçoit un beau jour un test de grossesse positif anonyme. Or, il est possiblement porteur d'une maladie génétique qui s'appelle la chorée de Huntington et qui est incurable. Et donc, la question de cet avenir-là aussi, genre, est-ce qu'il a transmis la vie et la maladie ensemble par inadvertance et à qui? Donc à partir de là, sa vie déraille, quoi, parce qu'il faut qu'il retrouve la personne qui lui a envoyé ce test.
Et donc, tournage cet été ou...
Tournage cet été, ouais.
Ok.
Puisqu'on a besoin d'un peu de canicule.
Certes. Mais donc, vous réalisez ou vous avez écrit
et... On a écrit et on réalise.
Ok. Ok. Ouais, dernière question. T'as quel rapport avec le doute? Tu as 4 heures.
Je doute beaucoup. Mais jusqu'à ce petit épisode de tristesse et de colère qui s'est abattu sur moi ces derniers mois, j'étais capable de cantonner vachement le doute. C'est-à-dire... Je savais qu'il y avait des choses à puiser, quoi, dans le doute, bien sûr, que dans le fait de se remettre en question, dans le fait de pas s'asseoir sur ses certitudes, il y a forcément quelque chose qui rend meilleur, quoi, qui affine sa manière de penser, et puis qui me permet de pas être une connasse détestable qui pense qu'elle a toujours raison. Mais d'un autre côté, je savais aussi que pour agir, parfois, j'avais besoin de mettre un couvercle, quoi, sur le doute et de juste avancer un peu en tant que force brute. Et donc, je tenais un peu mes trucs, quoi, de me dire, OK, là, j'arrête de douter, même si je sais que j'ai de bonnes raisons de douter pour pouvoir faire ce prochain pas. Il faut que je me concentre en fait sur une absence de pensée. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, que je me concentre sur une absence de questions. Et puis, trop de temps avec moi-même pendant cette pandémie, trop de perte de contrôle de beaucoup de choses. Et du coup, j'ai laissé le doute prendre beaucoup de place. Je crois que c'est aussi pour ça que la scène, elle me manque. C'est qu'en réalité, je disais oui, quand je me prends des bides, je suis capable de penser que je vais partir et tout ça. C'est pas tout à fait vrai. C'est en un éclair de seconde. La personne que je suis sur scène, elle a que un éclair de seconde pour douter. Après, de toute façon, il faut,
faire semblant que tout va bien, quoi qu'il arrive. Donc,
voilà. Il faut soit mourir les bras en croix au sol sur ton plancher noir, soit tu continues. Et du coup, la personne que je suis en scène, elle est beaucoup plus forte que moi. Et j'aimerais bien retourner dans sa peau, quoi. Parce que, ouais, c'est. Le doute est très, très limité. Il peut arriver après en débrief, mais il est quand même tenu à distance, quoi.
Oui, de toute façon, sur scène, il y a un contrôle de tout. T'as ton texte, il y a beaucoup moins de facteurs externes.
Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a aussi cette chose qui est que, du coup, je dis un texte que j'ai validé un an, tu sais, avant d'arriver avec. J'ai a priori peu de chance de me dire comme dans la vie, mais qu'est-ce que c'est que cette énormité que je viens de sortir?
J'ai changé d'avis. Ne m'écoutez pas.
Non, attendez. Non, coupez tout ce paragraphe.
Merci Alice.
Merci à toi pour l'invitation.
J'espère que l'épisode vous a plu. Maintenant, zou, filez lire du Alice Zénitaire. Je rappelle que son essai « Je suis une fille sans histoire » vient de sortir. Le lien est dans la description pour commander ses livres et pour la suivre sur Twitter. Prochain épisode des gens qui doutent dans 2 semaines. Comme d'habitude, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube, où vous voulez, et à laisser des étoiles et des commentaires. Ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est référencement. Et puis, si vraiment ça vous plaît, vous pouvez soutenir le podcast via Patreon en faisant un don mensuel, ou c'est nouveau sur Acast en faisant un don one shot. Ça fait toujours plaise la moula. Sinon, vous connaissez le bail, je suis sur Facebook, Twitter, Instagram pour poster des podcasts, des chroniques, des trucs débilos. Donc n'hésitez pas à me suivre, il suffit de chercher Fanny Ruet. Bisous. Un épisode mixé par Maxime Moitieu. Brr.